Bonjour et bon après-midi en ce dimanche 20 janvier 2013. Bienvenue dans ce groupe de partage autour des enseignements non duels. Bienvenue à ce petit groupe que nous sommes ici dans ce dimanche où la neige tombe à petits flocons, mais il y a déjà une épaisse couche de neige dans ma cour. Et bienvenue à un grand groupe devant les haut-parleurs, avec nos chers frères et sœurs avec qui nous avons rendez-vous lors de ces groupes. Voilà, je vais commencer avec un son de cloche. Que je vais aller chercher. Voilà, ce sera pour l'occasion un bol de cristal qui va nous rappeler la note Fa, la note du cœur, avec laquelle nous sommes unis. Merci. Voilà, donc je vais présenter ce groupe en quelques phrases, quelques directions, et ensuite nous pourrons librement aborder chaque sujet que nous souhaitons, de manière à pouvoir l'offrir en éclairage à notre esprit pur, celui qui peut interpréter chaque situation avec l'unité comme fondement, l'unité de tout ce qui est. Voilà, alors aujourd'hui nous pouvons parler du pardon véritable et comment il est de nature à pacifier notre vie. Nous pouvons nous rappeler que, quoi que nous percevions, il y a toujours deux niveaux de perception. L'un est celui de l'illusion avec notre ego, qui est par nature le sens de la limite, de la séparation, et l'autre avec notre esprit pur, qui est dans l'unité, la paix, et qui nous permet de changer de vision à propos d'une situation. Voilà, nous pouvons aussi parler de la guérison qui est de l'esprit dans le sens de la vraie guérison. Et l'esprit qui va insuffler la guérison au corps et non pas l'inverse. Dans un courant miracle, c'est rappelé de maintes et maintes manières. La vraie guérison est de l'esprit. Hein, l'esprit, c'est comment je vois la situation. On pourra parler aussi du voile de séparation qui fait que, même si nous avons des appels à nous réveiller, nous nous sentons séparés dans notre vie de tous les jours. Nous apercevons des aspects de la réalité comme étant séparés les uns des autres, les personnes comme étant séparés. Nous trouvons aussi le besoin de pardonner dans cette réalité humaine, le besoin de reconsidérer des situations à la lumière de l'unité, ce qui dans le monde de l'unité n'existe pas, puisque le pardon est un outil pour accéder à notre vraie nature, hein, pour nous rappeler de qui nous sommes, nous réveiller. On pourra parler du plan divin pour l'humanité, hein, et qu'est-ce que cela veut dire et comment il peut se percevoir ou se dérouler. On pourra aussi arrêter de batailler contre l'ego et plutôt le mettre à notre service et l'inviter à se calmer et l'inviter à nous rendre service plutôt qu'à être dans une opposition avec quoi que ce soit. Et puis, nous pourrons évoquer un aspect fondamental d'un cours en miracle qui suggère d'en appeler à l'esprit, d'en remettre à l'esprit, d'offrir à l'esprit chaque situation déplaisante, difficile, conflictuelle, et de ne pas tenter de trouver des solutions bricolées avec notre ego, notre mental, et de manifester une véritable humilité à ce propos qui offre la situation et ensuite ne s'en occupe plus parce que nous ne savons pas au niveau de l'ego comment la traiter. Et si nous essayons de la traiter au niveau de l'ego, nous aurons des solutions qui sont soit temporaires, soit ne fonctionneront pas, seront des impasses. Voilà, il y a une partie de nous que nous pouvons appeler, qui est appelée par le courant miracle, le Saint-Esprit, la partie pure, simplement reliée à l'unité de nous-mêmes, qui a la solution parce qu'elle réside dans la vérité, dans le non-temps, et dans le non-temps, problèmes et solutions sont toujours ensemble, puisqu'ils ne sont pas séparés par des intervalles de temps. Voilà, et dans ce groupe, nous pouvons nous fonder sur une phrase en deux mots qui dit simplement « Dieu est ». Dieu est tout ce qui est, et Dieu ne s'opposant jamais à rien, puisqu'il est tout, il ne peut pas s'opposer à lui-même. Et dans ce « Dieu est », il y a un calme infini, une paix infinie. Aucun temps, aucune séparation, une félicité sans borne, un bonheur parfait. Et il y a des caractéristiques telles que l'inchangeabilité, l'invulnérabilité, la constance, la joie, l'amour absolu, sans limite, sans condition, et le bonheur parfait. Voilà, et c'est loin d'être ennuyeux, hein, puisque c'est en extension, en permanence, et c'est toujours par la joie et par l'amour que Dieu s'étend à l'infini, et nous sommes dedans, hein, nous sommes dans cette création perpétuelle de plus d'amour. Donc c'est réellement des réjouissances à l'infini. C'est pas parce que ça ne change pas que c'est ennuyeux. Le simple mot « ennui » est inconnu de Dieu, puisque l'ennui suppose un jugement sur le temps qui passe. Alors, ni le temps ni le jugement n'existent, hein, dans le monde de l'unité. Le jugement de l'ennui voudrait dire « cela a assez duré, ça dure trop longtemps, hein, ». Et donc, c'est carrément une sensation de notre ego humaine, mais ça ne peut pas être vécu dans l'unité absolue. Et puis, de manière à laisser le groupe se conduire de lui-même, guidé par l'esprit, je vais justement m'en remettre à l'esprit pour diriger ce groupe, afin que tout ce qui doit être dit soit dit, en me laissant guider par l'inspiration, tout ce qui doit être fait soit fait, et tout ce qui doit rester silencieux le soit aussi. Dans cet abandon-là, les choses assurément seront parfaites. Et cela est. Et donc je citais 5 phrases qui m'invitent à m'abandonner à la situation, à ce groupe et à ce qui va se dire ou ne pas se dire dans ce groupe. Et ces phrases disent ceci, qui est repris à la page 30 d'un cours en miracle, que je reprends plutôt de la page 30, et qui disent « Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai pas à me soucier de ce que je vais dire, ni de ce que je vais faire, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Je suis heureux d'être là où il souhaite que je sois, sachant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. » Voilà, et dans ce monde de dualité, nous avons une intuition très forte pour certains d'entre nous, un appel à se réveiller qui grandit, qui cherche l'amour vrai, l'amour sans condition, et qui a l'intuition que c'est cet amour qui est la seule réalité, c'est cet amour aussi qui peut guérir tout ce qui a besoin d'être guéri en moi, tous les doutes, toutes les peurs, toutes les angoisses, tous les aspects conflictuels ou tout ce qui peut être séparé. Nous sommes venus dans un monde où apparemment autre chose que l'amour existe, pour avoir la joie de replonger dans l'océan d'amour sans borne, sans limite et sans condition. Ça peut paraître étrange hein, comme expérience. Quel besoin avons-nous eu de quitter l'amour absolu pour expérimenter l'amour conditionnel? L'ego pose cette question insensée. Comment l'impossible s'est-il produit? En parlant de l'idée de séparation, de la pensée de séparation, qui exprimait cette question, que se passerait-il si nous n'étions pas divins? Alors bien sûr, comme nous sommes divins, la question est insensée. Et comme cette nature est inchangeable, la question ne peut pas se poser. Mais l'ego est le monde de l'illusion. Donc dans l'illusion, en effet, la question est illusoire et la question peut sembler se poser. Et nous pouvons aussi sembler être dans un monde sans amour. Et nous pouvons aussi nous imaginer que des expériences difficiles sont vécues. Le meurtre, l'angoisse, la peur, les conflits, la guerre, etc. Voilà, et un cours en miracle nous part d'un monde illusoire que nous imaginons parce que dans l'unité, il n'y a que l'amour. Et pour expérimenter autre chose que l'amour, nous avons besoin de l'imaginer, de le rêver. Et il semblerait que ce monde illusoire soit la conséquence d'un moment bref pendant lequel nous nous sommes assoupis et nous avons imaginé qu'autre chose pourrait exister. Et avec cette pensée divine, avec la puissance de cette intention, nous avons donné à notre rêve des aspects de réalité. Nous avons cru que, en effet, ça pouvait se passer. Et ça a eu donc des effets dans notre esprit et des aboutissements imaginaires. Mais nous avons tellement bien voilé notre esprit que nous considérons tout cela comme parfaitement réel. Que dire sinon que nos cinq sens sont au service de cette illusion? Et nos cinq sens fonctionnent un peu comme une boîte noire. Dans la boîte noire, entre des stimuli, et parce que je crois très fort à cette expérience illusoire qui veut expérimenter autre chose que la réalité unique de Dieu ou de l'amour, alors je ne laisse monter à ma conscience que ce qui satisfait à cette croyance. Et donc tous les stimuli qui satisfont la séparation m'arrivent, et tous les stimuli qui me représentent un monde divin dans l'unité sont soigneusement filtrés pour me laisser dans la perception de cette illusion. Il y a des phrases d'un cours en miracle qui décrivent parfaitement cela. Hein. Je ne laisse monter à ma conscience que ce que j'accepte de croire. Hein. C'est intéressant parce que nous pouvons aussi imaginer que nos sens nous renseignent sur la réalité. Or, nos sens sont des signaux électriques et chimiques qui passent dans notre cerveau et qui sont ensuite décodés en fonction d'un programme qui réinterprète hein, ces signaux. Et si le programme dit « je crois à la séparation », le programme va me montrer ce que je veux croire. Et lorsque le programme peut changer, ma réalité, ma vision peut changer. Donc c'est assez intéressant de se rappeler que nos sens sont éminemment subjectifs et que le cours en miracle dit nos yeux sont faits pour ne pas voir la réalité, pour ne pas voir le vrai monde. Mais servent notre but d'expérimenter la dualité, le monde de séparation, de même que tout le reste, hein, le toucher. Je peux toucher des choses qui semblent séparées. L'ouïe, pareil, il y a un son qui est à l'extérieur de moi. Tous nos sens servent la séparation. Alors bien sûr, ça peut sembler un peu effrayant lorsque je me base entièrement sur cette réalité, vécu, perçu comme représentant ma seule réalité et qu'il n'y a pas autre chose dans ma perception qui puisse me rappeler là d'où je viens, ma maison, ma source, la source joyeuse d'amour pur. Voilà, alors il semble que certains dans notre monde puissent quand même en avoir des aperçus à travers des visions spectaculaires, à travers des miracles, hein, des changements de perception quasi instantanés et qui montrent temporairement un autre aspect de une autre perception possible hein, sur ce que je vois, ce que je ressens, ce que je perçois. Voilà, et également certains moments de notre vie qui sont des moments que j'appelle de révélation, où pendant un temps plus ou moins long, nous pouvons avoir une expérience très intense de connexion au tout. Des instants de grâce, des instants d'amour pur, des instants de félicité, d'extase, de connexion au moment présent très intense, comme si, à un moment donné, nous étions prêts à recevoir un aperçu du monde réel, et que, étant prêts, notre perception tout d'un coup change, et nous fait percevoir quelque chose auquel l'ego veut très fort s'accrocher, parce que c'est un monde sans condition et de bonheur, d'amour, et qu'il y a une grande simplicité à vivre ces moments-là, et qu'il n'y a plus aucun conflit momentanément. Donc l'ego en fait une sorte de nouveau jouet avec lequel il peut jouer, et essaye de retenir ces instants, bien sûr, dès lors que j'essaie de m'accrocher à des instants fugaces, des moments bénis, alors je fais en sorte que je suis confronté à l'attente, à la déception, et ces moments cessent d'eux-mêmes, puisque j'ai choisi de les quitter en entrant dans l'attente, même involontairement. Voilà, donc bienvenue à tous les partages, bienvenue à tout ce qui vous relie à l'unité en tant que vos expériences, bienvenue à tout ce qui vous semble vous séparer de l'unité en tant que vos expériences de vie. Tout cela a du sens. Bienvenue à tous ceux qui semblent sortir du rêve, entrer dans un rêve heureux. À tous ces humains qui, de plus en plus, mettent l'amour au premier plan dans leur vie, de même que toutes les qualités qui sont inhérentes à l'amour, la fraternité, la solidarité, la bienveillance et la patience, qui se multiplient sur Terre et sont comme le levain dans la pâte, hein, qui font que la pâte commence à lever à l'échelle de l'humanité tout entière. Voilà, sur ce, je laisse la parole.
Alors nous sommes comme le levain dans la pâte, mais la pâte se lève, qu'est-ce que ça veut dire? Se lève vers quoi? Quel est le symbole qui est derrière ça? Comment est-ce que ce symbole, cette pâte qui lève, comment est-ce que ça peut nous toucher personnellement dans notre vie? Comment est-ce que cela peut apporter quelque chose de concret? Je dirais quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous plaît, vers lequel nous sentons attirés. Par quoi sommes-nous attirés? Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Être heureux. Tout être veut être heureux. La vie est bonheur, la vie est expression de joie. La réalité est d'une félicité incroyable. Alors c'est vrai que nous répétons un peu sans cesse les mêmes mots, les mêmes invitations, les uns les autres. Et si vous regardez bien dans votre vie, dans votre quotidien, dans votre monde à vous, vous êtes en train d'écouter cet enregistrement. Et puis en même temps, vous avez tout un monde très personnel, très particulier, très propre à vous. Et dans ce monde, eh bien, une grosse partie semble être souvent pas du tout connectée à ce dont nous parlons ici. Donc le levain dans la pâte, c'est quoi? C'est un levain, c'est quelque chose qui va susciter une expression d'amour et donc de joie. Voilà, c'est ça qui est fondamental. Le monde de l'ego parle d'amour sans cesse. c'est jamais de l'amour. C'est un marchandage, c'est une tentative pour se protéger de choses que l'on craint et pour essayer d'attirer des choses que nous, dont nous pensons avoir besoin. Très bien, c'est un fonctionnement. Et ça n'a pas de... ce n'est pas mal. Simplement, le Cours en miracle, dans une de ses premières leçons, dit « Il n'y a pas de pensée neutre. » On dit aussi que tout ce qui se passe, tout événement, tout ça c'est neutre, ça n'a pas de valeur. Donc c'est pas cette même neutralité, c'est pas la même neutralité. Les événements, par rapport à la réalité, la seule chose qui soit réelle, qui existe, sont tous neutres. Toute relation, tout un cours en miracle, ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, c'est neutre. Ça n'a pas de valeur. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est ni bien ni mal. Le bien et le mal n'existent pas. Seul le bien existe. L'ego, c'est une croyance que nous nous sommes amusés à avoir pour faire des expériences. Très bien. Et donc, effectivement, comment est-ce qu'on a cette expérience ? Par la pensée. Et nous sommes créateurs parce que nous sommes qui nous sommes. Nous sommes divins. Et nous sommes esprits. Et le principe d'un esprit, c'est de penser, c'est la pensée. Comme nous nous sommes identifiés à un petit corps séparé des autres corps, isolés sur une planète, là, dans un petit monde très personnel, nous avons l'impression de penser. Alors les scientifiques, on étudie le cerveau, la pensée, par le cerveau, etc. Mais ce n'est que des résultats de programmation, ce n'est qu'un circuit électrique, des circuits électriques qui fonctionnent. La clé derrière tout ça, la clé fondamentale, c'est que nous sommes 7 milliards à avoir choisi une expérience d'ego, c'est-à-dire une expérience de séparation. Tout à l'heure, Avi nous parlait de ce que dit le cours en disant « les yeux du corps sont faits pour ne pas voir ». Pourquoi ? Parce que le principe des yeux du corps, c'est de s'ouvrir, on s'ouvre sur le monde extérieur et on voit des choses qui ne sont pas nous. On voit des gens, des personnes ici assis autour de la table, on voit une table, une maison, on voit des arbres, etc. Et on voit toujours des choses qui ne sont pas nous. C'est ça le principe de la séparation. C'est pour ça qu'on dit qu'effectivement ce monde est une illusion. C'est la façon de le voir qui est une illusion. Le monde n'est même pas réel. C'est imaginé. C'est imaginé d'une manière incroyable, c'est imaginé avec notre potentiel divin par l'esprit que nous sommes, par qui nous sommes. Et qui nous sommes, c'est esprit, c'est un esprit qui a, disons, une potentialité d'imagination infinie, avec une puissance infinie. Et que nous le voulions ou non, eh bien, il n'y a pas de pensée stérile. Les événements, les relations, n'importe quoi, un cours en miracle, tout ce que vous voulez, tout ça c'est neutre, ça n'a pas de valeur en soi. Le principe de quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose qui, si je ne l'ai pas, je manque. Mais comme je suis infini, je manque de rien. Donc ma valeur n'est jamais dans quelque chose d'extérieur, parce que ça serait quelque chose qui, si je ne l'ai pas, je vais diminuer ma valeur, mais ma valeur est infinie. C'est ça que ça veut dire, le fait que nous avons une valeur infinie, et que seule la réalité de l'esprit infini, l'esprit divin, c'est ça qui est la valeur infinie. Mais ce n'est pas les formes imaginées. Quelque splendide qu'elles puissent paraître, quelque magnifique. Par exemple, un cours en miracle est un livre magnifique. Un coucher de soleil, c'est magnifique. Mais ça n'a pas de valeur. En ce sens que si je ne suis pas devant un coucher de soleil, je ne perds rien. Donc, cette notion de valeur, c'est au sujet des formes. Maintenant, nous parlons de la pensée. Et tout à l'heure, Avi nous rappelait que la guérison est de l'esprit, effectivement. La maladie est de l'esprit, la guérison aussi. D'où vient de la pensée. Donc, le levain dans la pâte, c'est un levain qui va venir de l'esprit et qui va faire monter la pâte, c'est-à-dire qui va donner la possibilité d'avoir du bon pain, c'est-à-dire d'avoir une expérience de joie et de bonheur. C'est ça que nous voulons tous, c'est évident. Quelqu'un qui est dans la joie et le bonheur, il ne se pose pas de questions. Il est dans la joie et le bonheur, même ceux dont nous parlons ici, ne lui importe pas. Et c'est pour ça que, au fond, ce que nous disons ici n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour... Pourquoi ? Pour qui ? Ça a de l'importance s'il y a mal-être, s'il y a souffrance. Et effectivement, comme nous avons choisi une expérience de séparation, impossible, puisqu'on ne peut pas être séparé, eh bien, il y a en permanence un conflit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous savons très bien, et en même temps, on cherche à le cacher parce que c'est tellement énorme que ça a entraîné énormément de culpabilité, de peur par rapport à des dangers, par rapport à des punitions qu'on peut avoir. Et cette notion de culpabilité, elle est gigantesque. Et il n'y a pas de pensée neutre. Il n'y a pas de pensée neutre, c'est-à-dire que je suis esprit, et donc mes croyances, mes pensées créent mon expérience. Comme au départ je suis esprit divin infini, je me suis amusé à l'expérience de séparation, très bien, et c'est remarquablement fait avec une puissance infinie. Et nous sommes 7 milliards ici, d'esprit divin, nous sommes un, mais nous avons choisi cette expérience. Nous avons choisi cette expérience ensemble, avec un corps physique. Donc, une vision séparée, donc un ego. En soi, ce n'est pas mal. Le mal n'existe pas, c'est simplement un jeu. Pourquoi est-ce que ça semble si difficile de sortir de ce jeu ? C'est parce que c'est tellement bien fait qu'on a vraiment l'impression d'être identifié à un personnage séparé, d'être identifié à un corps physique. On a tout fait pour. C'était le but du jeu. Et c'est toujours le but du jeu. Simplement, quand on dit c'est le but du jeu, comme nous sommes créateurs totalement de notre expérience, si ça nous va le jeu, très bien. Et la question c'est, est-ce que je continue à jouer ? Pourquoi pas ? Mais jouer quoi ? Quel jeu ? Le jeu des conflits, le jeu de la peur, le jeu d'avoir à me battre dans cette société, d'avoir à tout le temps d'avoir à répondre aux attentes des autres, que je ne peux jamais satisfaire d'ailleurs. Alors je change de religion, je viens dans une religion, et puis pour ça je passe dans une autre, et puis on me demande d'atteindre un dieu extérieur que j'arrive jamais à atteindre. Alors on me fait des promesses, on me fait des tas de choses, on me donne des carottes pour m'attirer, et puis des coups de bâton si ça va pas, et j'en sors pas. Mais c'est moi qui crée tout ça. Comment ? Par l'ego, par ce jeu. Donc ce jeu insensé que nous jouons ici, c'est cette espèce de chaos formidable, nous le jouons ensemble. On ne l'a pas joué pour souffrir, parce que personne ne veut souffrir. Simplement, on s'est amusé avec notre puissance créatrice à imaginer cette séparation, à imaginer d'être un corps physique. Et si ça nous plaît, ben très bien, continuons. Et si certains disent ça, ce qui se passe, on dit, mais moi, je me sens bien, ça va, tout va bien, très bien, c'est pas de problème. C'est pour ça qu'on va jamais réveiller quelqu'un. On est là pour aimer, c'est-à-dire on est là pour être le levain dans la pâte. Mais qu'est-ce que c'est que ce levain ? C'est une réponse à l'appel à l'amour. C'est une réponse à l'appel à l'amour. Parce que tout appelle l'amour. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que l'amour. Le reste est imaginé. Et donc, au milieu de ce jeu apparemment insensé, invraisemblable, et si nous n'étions pas qui nous sommes, donc jouons à l'identification à un corps particulier, physique, dans un temps linéaire apparemment, ok, jouons le jeu. Mais l'amour est là. Et l'amour appelle en disant, tu t'amuses mon chéri ou ma chérie, tu t'amuses, t'es heureux, t'es heureuse. Est-ce que tu as le sentiment d'être cette plénitude incroyable, d'être cet être divin incroyablement infini, magnifique, splendide ? tu t'amuses à être un petit personnage, est-ce que tu es heureux avec ça? La réponse peut être oui. Seulement, quand c'est oui lucide. C'est-à-dire, je sais que je rêve. Et donc, je m'amuse. Et donc, je suis heureux et tout va bien. Et si j'ai une circonstance de vie désagréable, je sais que c'est passager, je sais que ça fait partie de quelque chose qui est un cadeau. Même si sur le moment, ça ne me paraît pas un cadeau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que l'amour. Et tout à l'heure, quand Avi énumérait différents sujets dont vous pouvez parler ici, il a encore parlé du plan divin. Qu'est-ce que c'est que ce plan divin? C'est un plan, justement, c'est l'intelligence infinie qui en même temps respecte le rêve de séparation et qui arrange les événements, les relations, tout ce qui se passe d'une manière parfaite pour tout en laissant chacun totalement libre, permet à chacun de retrouver le chemin de la maison, c'est-à-dire le chemin de qui nous sommes, c'est-à-dire la vision de qui nous sommes. Donc de sortir du rêve, en voyant que personne n'a jamais rêvé, parce que c'était impossible d'être séparé. Donc il n'y a pas de pensée stérile, et on pense soit avec amour, soit dans la peur. Quand on pense dans la peur, ça a des effets. Ça a des effets de séparation, ça multiplie. Mais comme la séparation n'existe pas, comme dit le cours en miracle, on multiplie le rien. Alors qu'on peut multiplier le rien à l'infini, ça fait toujours rien. En revanche, si j'ai des pensées amoureuses, des pensées d'amour, à ce moment-là, je multiplie ce qui existe, qui est réel. Donc j'étends l'amour à l'infini. C'est pour ça que dans le cours en miracle, on nous dit que ça fonctionne, et ça c'est un terme anglais, comme une épée à simple tranchant. Ça veut dire que ça marche que dans un sens. Ce monde infernal, ce monde de guerre, de lutte, de conflit, où chacun essaye de posséder, d'avoir du pouvoir, ça ne fait qu'engendrer le rien. Ça ne donne jamais de réalité à ce qui n'en a pas. C'est pour ça que ça commence à devenir important de dire que c'est un rêve, que ça n'existe pas, parce que c'est vraiment ça. Et si je dis le monde est réel, je suis désolé, mais le monde est réel, ben non. Parce que là, je crée mon enfer, dans mon expérience, même si justement il n'est pas réel. Si j'y crois, je le rends réel pour moi, parce qu'il n'y a pas de pensée neutre. Et je vis mes croyances. Et encore une fois, la question, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis heureuse? Tôt ou tard, avec cette pensée d'ego, la réponse sera non. Tôt ou tard, la réponse sera, il y a une culpabilité derrière qui est insupportable. Cette culpabilité, ce désagrément, cette peur, finalement, ça me motive. Quelque part, temporairement, c'est comme un phare qui me ramène à la maison. Disant, t'es content avec ta peur? T'es content avec ta culpabilité, là? Ben non, c'est désagréable. Bon, très bien. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je veux être heureux, moi, c'est tout. Bien sûr. Tu l'es. Comment je le suis, mais... Tu ne peux pas ne pas être qui tu es. Tu es esprit divin, tu es esprit. Donc tu vis tes croyances. Ah oui, je vis mes croyances, mais alors, puisque je me suis amusé avec dans cette pensée de séparation, je suis foutu, quoi. Je suis infernal, je tourne en rond, je m'enfonce de plus en plus dans ce rêve où je crée de plus en plus de prisons, de plus en plus d'illusions. Apparemment, oui. Apparemment, ça semble comme ça. Et c'est là qu'arrive le plan divin, justement. Comme dit le courant miracle dans la leçon 135, qui est citée et recitée, que je n'arrête pas de citer, que ne pourrais-tu accepter si seulement tu savais que tout événement, tout ce qui arrive, tout événement passé, présent et futur, est planifié avec amour et bienveillance. par l'un, par quelqu'un, avec un Q majuscule, en fait par le Saint-Esprit, l'Esprit, par le Christ, par qui tu es, par l'un dont le seul but est ton bien et le bien de tous. Et c'est là qu'arrive là, cette notion fondamentale de plan divin et de perfection des choses. L'instant présent est parfait. Le monde va très bien. C'est ma vision du monde qui ne va pas bien. La guérison est de l'esprit. Parce que c'est dans l'esprit que la maladie s'est créée. Ah, très bien, mais alors à ce moment-là, quoi faire? Change tes pensées. Oui, mais je change mes pensées, mais j'y arrive pas. J'essaye, je prie, puis j'y arrive pas. J'ai toujours ces pensées qui reviennent. Continue. Ça prend du temps. Parce que ce jeu de séparation dans lequel tu sembles enfermé, il est très bien fait, il est fait avec toute ta puissance divine. Et donc, il est remarquablement fait. L'illusion est magnifiquement faite. Tu sembles vraiment une victime. Tu sembles vraiment, effectivement, enfoncé dans un rêve infernal, dans une prison que tu t'es créée. Oui, c'est vrai, ça semble comme ça. Seulement, c'est impossible. Écoute ton cœur. Parce que si vraiment c'est vrai que tu es un être divin et que tout va bien, ben si tout va bien, tout va bien maintenant. Et l'être divin, où est-ce qu'il est? Ben il est là. Il est en toi, c'est même ta seule réalité. Donc si vraiment c'est vrai ça, mets-le à l'épreuve. Demande-lui de te parler. Arrête, fais un arrêt sur image, arrête. Va faire un tour en forêt, je sais pas, arrête, respire. Va même pas au boulot aujourd'hui, fais n'importe quoi. Mais tu le veux vraiment? Tu veux vraiment voir qui tu es? Alors, pose des actes. Tes actes à toi, des actes d'amour, pas des actes pour perturber les autres ou même toi-même, bien sûr. C'est une façon de parler. Parce que si tu écoutes ton cœur, tu vas t'apercevoir que les actes que tu poses sont des actes amoureux. Ce sont des actes qui vont engendrer de l'harmonie. Il n'y a pas de pensée neutre. C'est impossible à cause de qui nous sommes. Donc c'est très pratique. Parce que c'est ça que nous attendons tous. On répète des mots, très bien, mais s'il n'y a pas de mise en pratique, c'est vide. On peut lire des bouquins spirituels, on peut faire un tas de choses, aller dans un tas de séminaires, dans un tas de groupes, écouter indéfiniment. Ok, on dit on s'aime, et puis on a toujours cette même angoisse au ventre, cette même peur. Alors, est-ce qu'on veut arrêter ça? Comment? En regardant en face, avec honnêteté, ce qui se passe. En nous occupant de nous-mêmes et pas des autres. Vraiment, là, maintenant. Donc je prends conscience du corps physique. Je prends conscience de mes respirations. Parce que j'ai choisi ce corps physique pour cette expérience humaine. Donc ça a l'air de rien, c'est pas anecdotique. Et là, on est 7 milliards logés à la même enseigne. Ah oui, il y a certains, oui, il y a des hommes, des femmes. Oui, effectivement, des hommes, des femmes, oui. Il y a deux sexes. Mais il y a un corps. Et voilà, nous sommes dans cette aire de jeu, ce terrain de jeu, ce bac à sable, là, cette planète, ensemble, 7 milliards. Je regarde ça en face. Alors, je suis fatigué, donc je vais dormir, oui, puis je me réveille le matin, et ça recommence. Le décor se met en place, de nouveau les 7 milliards, de nouveau le petit conditionnement, là où je suis, dans mon monde, le boulot, ou les enfants, ou tout ce qu'on veut, ou rien. Et arrive une nouvelle notion, c'est que c'est toujours le moment présent. Et dans le moment présent, c'est le moment présent. Et j'ai la notion de moment passé, mais je ne peux pas y aller. J'ai la notion de moment futur, à venir. Je ne peux pas y aller. Je suis toujours dans le moment présent. Et ça devient quelque chose de fondamental. Parce que si je suis vraiment qui je suis, un être divin avec infini, un être divin infini, qui n'est qu'amour, qui n'est que lumière, et si le moment présent est le seul temps qui soit, mais c'est maintenant que c'est là. C'est maintenant que je suis qui je suis. C'est maintenant que vous êtes qui vous êtes. C'est maintenant qu'il n'y a que l'amour et rien d'autre. Donc forcément, si j'ai un mal-être, ou si j'ai une angoisse, ou une culpabilité profonde, s'il y a quelque chose qui a été faussé, qui ne va pas. Ça vient d'où ? De ma vision, parce que je suis esprit. Donc forcément, c'est dans l'esprit que ça doit se faire. Et qu'est-ce que je peux... Oui, mais je suis coincé, là. J'ai l'impression d'être pigé dans mon propre jeu, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai en apparence. Mais c'est impossible parce que je ne peux pas être pigé à cause de qui je suis. Et c'est là qu'arrive cette force incroyable où je dis, je demande à l'Esprit, je demande au Saint-Esprit, je demande à Dieu, je demande à qui je suis, au Christ. Dis, montre-moi ta vision. Je suis angoissé, peut-être je me sens coupable, j'ai peur... J'ai des douleurs physiques ou même des maladies physiques dans ce corps. Quand je dis j'ai, ce corps hein, montre des symptômes déficients, par exemple. Mais la réalité divine, Dieu, la réalité de l'esprit, qui n'est que paix, elle est là, puisqu'il n'y a que ça de réel. C'est ce que je veux. C'est pour ça que le cours en miracle va, par exemple, dire le bonheur est une décision. Je décide. Alors bien sûr, on va dire, je décide, puis tout d'un coup, je vais m'apercevoir qu'il n'y aura pas eu de décision. Ça ne fait rien. Je prends la décision, c'est vrai que c'est un outil, la décision. Mais c'est un outil qui est un outil moteur dont je me sers. Et tout le monde se sert de la décision parce qu'on décide toujours. Comme dit le cours en miracle, vous ne cessez de décider toujours, mais vous ne décidez pas seul. Comment on ne décide pas seul ? Oui, vous décidez justement avec deux possibilités. Soit avec l'ego, c'est-à-dire avec la notion, la séparation est réelle, soit avec l'esprit ou le Saint-Esprit, avec Dieu, avec la vie, avec l'amour, où tout est un. C'est vrai que dans le bac à sable dans lequel nous sommes plongés, là, sur cette planète, le but c'était de jouer avec l'ego, puisqu'on essaye de faire cette expérience d'ego, donc ça n'a rien de mal. Simplement, depuis des éons qu'on fait ça, maintenant, on s'est aperçu qu'on commence à se dire « mais ça marche pas, ça fonctionne pas. » Ça n'apporte tôt ou tard que des conflits, que du malheur, que des pleurs. On en a assez. Alors donc, ce n'est pas les autres qui doivent changer. Personne n'a changé, moi non plus. Simplement, c'est ma vision qui est appelée à changer. Pas moi. Moi, je ne change pas. Puisque je ne suis que lumière et que Christ. Et vous non plus. On est déjà... On est le Fils, comme dit le cours en miracle, comme disait Jésus, le Fils du Père. Le Père et le Fils sont un. On est l'expression de la vie. On est le vivant. C'est pour ça qu'il disait « Je suis la voie, la vérité, la vie. » Mais qu'est-ce qui est faussé ? Ma vision. C'est là qu'il y a un arrêt sur image. J'arrête et je demande de l'aide. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Mais être heureux. Alors, je suis... Pourquoi je ne suis pas heureux ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette culpabilité, cette peur ? Peut-être pas souvent, peut-être à certains moments, oui, bien sûr, comme tout le monde. Parce que tout le monde est divin. Tout le monde sait que ce que c'est que d'avoir une sensation d'être amour. Et dans le passé, où il y a eu des guerres, etc., il y a eu énormément de choses, des luttes, des viols, il y en a toujours actuellement. Mais il y a eu aussi des actions amoureuses incroyables. Nous savons très bien de quoi nous parlons, parce que c'est notre nature. Et qu'au milieu de ce jeu infernal, de ce jeu d'ego, et l'amour a toujours été là. Les êtres humains l'ont toujours senti. Je prends l'exemple, par exemple, au Moyen-Âge. Alors, il y avait, mettons, parce que c'était la justice était expédiée. Et donc, un voleur ou un assassin ou, quelqu'un qui était coupable gravement, alors il était recherché. Mais s'il allait dans un monastère, il était intouchable. On ne pouvait plus toucher. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce sens du sacré. Et ce sens du sacré, on l'a tous en nous. Vous voyez, alors il a été retraduit par quelque chose dans la forme, avec un mythe par rapport à la religion. Mais c'était un mythe. Et maintenant, nous commençons à comprendre que cette notion de religion commence à s'éclaircir. C'est pas la religion qui est une structure humaine qui a un sens. C'est ce dont se targue la religion, qui est la vérité. Et la religion, la vérité, elle n'est pas dans la religion. La vérité, elle est en nous. Elle est qui nous sommes. Elle est qui nous sommes. Alors, il n'y a pas de pensée neutre. Que je le veuille ou non, que ça me plaise ou non, c'est comme ça, à cause de qui je suis et qui nous sommes tous. Et qui sommes-nous ? Nous sommes amour. Nous sommes la vie, le divin. Et donc c'est par l'amour que tout est transcendé. Et que c'est par l'amour que nous nous réveillons. Et c'est pour ça que la seule chose qui nous soit demandée, c'est le oui, oui à l'amour. Et à ce moment, l'amour descend. Et l'amour se révèle. C'est pour ça qu'on parle de révélation. On ne peut pas le commander avec l'ego. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Alors comme nous avons choisi un jeu d'ego, eh bien, il est absolument indispensable de laisser ce jeu d'ego là. On le laisse vraiment, on ne s'en sert pas, on ne l'utilise pas. On laisse l'amour se révéler. Quand ? Mais maintenant, puisqu'il n'y a que maintenant. Donc ça suppose de la confiance, évidemment. Alors ben oui, je le fais. Eh bien, continue. Il n'y a pas d'autre choix. Ah oui, mais je nage, je suis hors de vue des côtes depuis longtemps. Ben oui, continue à nager. Ah mais c'est insupportable, je vais me suicider. Ben suicide-toi, tu vas recommencer, de toute façon ça ne fait rien. Il n'y a pas de mort. Et quand on dit ça, vous voyez, c'est pas un moqueur. Quand on dit suicide-toi, ça ne veut pas dire qu'on va aider quelqu'un à se suicider. Ou... Ça veut dire, ouvre tes yeux. Ok, ça veut dire que toutes tes pensées sont accueillies. Tu parles de suicide, ok, je t'accueille parce que je t'aime. Donc tu as envie, tu as des pensées de meurtre, de suicide, tu as des pensées de tout vouloir, de mettre vraiment en colère. Je t'aime avec ça. C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de pensée neutre. En anglais, c'est « there is no idle thought ». Je vais traduire par « il n'y a pas de pensée stérile », mais il n'y a pas de pensée neutre. Toute pensée est réelle pour le penseur. Et ça, nous sommes esprit. Et personne ne peut nous enlever ça. On ne peut pas enlever qui nous sommes. Donc c'est au niveau de l'esprit que ça se passe. C'est pour ça que vous qui écoutez ces paroles sur votre ordinateur, dans cet enregistrement, ce n'est pas au hasard si vous écoutez ça. Parce qu'il y a un appel intérieur disant « Mon chéri ou ma chérie, je suis là. Tu es la merveille de Dieu, tu es la merveille du monde. Tu es la fille ou le fils chéri de Dieu. » Et c'est les mots, bien sûr, c'est les mots, mais écoute ton cœur est au-delà des mots. Et le fait de le partager entre nous, de partager, eh bien, ça étend l'amour. C'est ça le levain dans la pâte. Si j'ai des pensées d'ego, des pensées de revanche, d'attaque, de défense, de peur, de culpabilité, très bien, j'étends ça aussi, c'est vrai. Mais j'étends ce qui n'existe pas. Je multiplie le rien. Alors que, quand... Je m'arrête et que je dis allez, je m'ouvre à l'amour. Ça y est, c'est commencé. Là, ça s'étend. J'étends l'amour. Je participe à la création de nouveaux univers, de nouveaux mondes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire sur cette planète ensemble. Nous sommes le levain dans la pâte, nous réveillons pour effectivement créer un monde nouveau. C'est-à-dire une façon de vivre ensemble, une façon de nous aimer ensemble, avec des nouvelles énergies, avec de nouvelles manifestations, qui sont des conséquences de guérison. En soi, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas les nouvelles façons qui sont importantes. Ce qui est important, c'est la joie. la joie qui va commencer de plus en plus d'une manière concrète à être ressentie par chacun d'entre nous, avec des miracles, avec de l'harmonie, avec simplement une joie profonde, une joie d'enfant. Alors nous allons continuer à rêver ensemble, à nous amuser dans ce bac à sable là. Mais comme dit le courant miracle, ça devient un rêve heureux, c'est un rêve joyeux, incroyable. Et ça va nous émerveiller encore beaucoup plus qu'on peut imaginer, c'est ce qui nous est dit et redit. Parce que nous avons un amour, parce que nous prenons la pleine responsabilité de notre expérience, et que nous comprenons vraiment que la seule chose qui importe, c'est de décider pour l'amour et non plus pour la peur. Il n'y a rien d'autre.
Alors moi j'ai tiré la très belle leçon 254 qui dit « Que toute voix, sauf celle de Dieu, fasse silence en moi. » Voilà, c'est un appel à la paix intérieure. Lorsque j'entends les voix agitées à l'intérieur, de la peur, de l'inquiétude, du doute, je peux les laisser... se tranquilliser parce que j'arrête de les entretenir avec mon esprit divisé. Et lorsque ces voix se reposent, ne sont plus entretenues par mon esprit, mon ego, alors je peux avoir un aperçu de la voix pour Dieu, la voix de Dieu, celle qui émane du silence, celle qui est dans cette paix imperturbable, celle qui est dans un bonheur sans aucune action, mais juste un état d'être, hein, celle qui est dans l'amour absolu. Alors ça peut bien sûr nécessiter un entraînement à faire silence, un entraînement à passer outre la compulsion à remplir ce vide avec quelque chose. Bien sûr, l'ego a peur du vide, comme on dit, la nature a horreur du vide. L'ego veut remplir tous les vides qui passent à sa portée. Tu fais silence, il va venir te générer des pensées qui vont tenter désespérément de combler le vide. Parce que le vide de pensée, c'est d'une certaine manière la dissolution de l'ego, même momentanée, la dissolution de la pensée de séparation. C'est pour ça que dans ce silence, c'est la voix de Dieu qui peut parler. Parce que l'ego enfin fait silence, l'ego enfin... La surface du lac redevient lisse. Nous sommes un lac que nous agitons en permanence en jetant des cailloux dedans, qui sont nos pensées. Donc dans les moments de silence, de vrai silence, quelque chose de notre vraie nature peut avoir une chance de se révéler. Et lorsque dans ce silence, il y a une pensée qui vient, je peux aussi ne pas m'identifier à la pensée et observer qui amène la pensée. Et faisant ça, je me désidentifie de la partie de moi qui amène la pensée. Et je suis celui qui observe. L'ego tentant de rompre le silence, et je l'observe depuis le calme et la tranquillité. Donc c'est une route, hein, l'observateur en moi, l'observateur tranquille, qui observe tout, émotions, sentiments, pensées, celui-là est la voie vers le silence dans lequel il n'y aura plus besoin même d'observer quoi que ce soit, puisque je serai tout à ce moment-là. Et donc, il n'y a rien à observer, il n'y a pas autre chose à observer, puisque je suis la totalité de l'existence à ce moment-là. Mais l'observation est un outil qui peut nous servir momentanément à arrêter de nous croire, de nous prendre pour l'ego, ou pour nous prendre pour les pensées d'agitation, les pensées de peur, les pensées de doute. Donc, faire silence, c'est déclarer humblement vouloir autre chose que le monde de l'agitation, même si je ne sais pas comment faire. Hein, déjà, l'intention est puissante. Alors, à propos de pensée et d'intention, j'ai plusieurs choses qui me sont venues. Dans le monde de la forme, nous posons des actes, nous émettons des paroles qui sont propres au monde de la forme. Dans le monde de l'esprit, qui est le vrai monde, qui est notre maison, notre source, selon la non-dualité, il n'y a pas de paroles et il n'y a pas d'actes. Il n'y a que des intentions et des pensées, des sentiments et des états. Hein, l'état d'amour, par exemple. L'amour est, ça veut dire que il est là tout le temps, dans l'absolu et en permanence, et renouvelé tout le temps, à chaque instant éternel, l'amour est, comme Dieu est. Donc ces intentions proviennent de l'esprit, de ce qui est sans forme, ces pensées proviennent de l'esprit, de ce qui est sans forme. Et rappelons-nous qu'une seule pensée a créé le monde, selon la non-dualité. Rappelons-nous qu'une intention est de l'esprit, une pensée est de l'esprit, et que, ce faisant, elle est d'une puissance considérable. Nous avons tendance, dans notre monde humain, à penser qu'il n'y a que ce qui est concret, qui est visible, qui est réel, ou qui peut être entendu par nos sens, ou vu par nos yeux. Et nous avons tendance à ignorer que nos pensées sont très puissantes, sont créatrices, que nos intentions, que nos sentiments intérieurs sont d'une grande puissance. Parce qu'ils viennent de l'esprit. Alors, il peut y avoir des pensées issues de l'esprit divisé, de l'ego, qui sont également puissantes, parce que ce que je crois, je vais ensuite lui donner matière à se manifester, parce que j'y crois suffisamment fort, et c'est là le pouvoir de mon esprit, hein, que de donner un champ de manifestation à ma pensée. C'est comme ça que ce monde est apparu. Hein. Mais n'importe quoi dans ce monde est issu d'une pensée. La tour Eiffel a été d'abord pensée avant d'être mise en parole et mise en action. Quoi que ce soit que vous voyez, que vous entendez, a d'abord été pensé. Donc c'est de la plus haute importance que d'accorder notre attention, la plus parfaite attention à nos intentions et à nos pensées, parce que celles-ci sont créatrices, hein, et créatrices du bonheur pour nous ou du malheur pour nous. À chaque seconde, nous pouvons créer l'enfer. Et à chaque seconde, nous pouvons créer le paradis. Mais plus nous savons de quoi nous parlons, en émettant des pensées, en émettant des intentions, en sentant la gratitude à l'intérieur, en sentant l'appréciation à l'intérieur, nous changeons littéralement le monde. En unissant nos esprits dans des pensées d'amour, nous changeons le monde. Parce que le monde aussi a été fabriqué avec une pensée. Donc c'est de la plus haute importance que de considérer que nos pensées se manifestent dans le réel tôt ou tard. Hein, si nous y pensons, si nous entretenons la pensée et l'intention suffisamment, si je me dis intérieurement je suis un bon à rien, c'est une pensée aussi qui génère un effet. Hein. Et si je dis je suis l'amour de Dieu, c'est également une pensée puissante qui reflète la réalité, hein, et qui a un effet également. C'est pour ça que la guérison est de l'esprit. Que je pense que je suis inchangeable et inaltérable et invulnérable a assurément un effet sur moi, mon corps, mes cellules, même si tout ça est imaginé, puisque ça fait partie d'un rêve, et mon rêve aussi est issu d'une pensée. Et je peux avoir un rêve heureux en influençant le rêve avec mes pensées, et je peux avoir un rêve qui ressemble à un cauchemar en ayant des pensées d'attaque et de défense et d'opposition. Alors, il y a une autre leçon qui est très belle que j'ai retrouvée là, la leçon 189, qui parle de se reconnecter à l'amour de Dieu. Parce que ça peut sembler abstrait pour certains. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi la voix de Dieu dans le silence? Peut-être je n'ai pas cette expérience, peut-être que je ne connais rien d'autre que des pensées de conflit, des pensées de jugement, des pensées de peur. Je sens l'amour de Dieu en moi maintenant. C'est le titre de la leçon. Et dans un des paragraphes de cette leçon, qui est très très beau, qui a déjà été cité, il y a quelques directions. C'est le chapitre 7, à la page 372. Du livre d'exercice pour étudiants, il est dit « Fais simplement ceci, sois calme et mets de côté toute pensée de ce que tu es et de ce qu'est Dieu. Tous les concepts que tu as appris au sujet du monde, toutes les images que tu as de toi-même, vide ton esprit de tout ce qu'il pense être vrai ou faux, ou bien ou mal, de toute pensée qu'il juge digne et de toutes les idées dont il a honte. Ne t'accroche à rien. N'apporte avec toi aucune pensée que le passé t'a enseignée, ni aucune croyance que tu as jamais apprise auparavant de quoi que ce soit. Oublie ce monde, oublie ce cours, et viens les mains entièrement vides à ton Dieu. » Voilà, je trouve ces paroles très puissantes. Ça parle beaucoup d'humilité. Si je ne connais pas la voix de Dieu, d'une certaine manière, c'est normal. Dans le monde de l'ego, la voix de Dieu est inconnue. Et si mon monde est celui de l'agitation, évidemment que cette voix de Dieu est complètement abstraite pour moi. Et donc, si je dis écouter la voix de Dieu, je ne sais pas le faire. Alors c'est aussi une phrase vraie, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Parce que je vis dans le monde où la présence de Dieu est niée. Dans l'ego, c'est une pensée d'un monde qui existerait sans Dieu, sans amour et sans toutes ces qualités divines. Donc, si je dis je ne sais pas, si j'accepte d'oublier aussi ce que le monde m'a appris, si j'accepte de laisser de côté mes pensées, mes croyances, si j'accepte de vider ma coupe entièrement, ne serait-ce que quelques instants, être entièrement vide de pensées, de certitudes, alors assurément, dans ce vide-là, l'aide peut apparaître. L'aide sous la forme de qui je suis en tant que révélation. Puisque la voix de l'esprit parle d'une manière subtile et l'ego parle d'une voix tonitruante. Et c'est pour ça que j'ai aussi tiré cette leçon que toute voix sauf celle de Dieu fasse silence en moi. Dans ce silence, si je suis disposé à entendre, j'entendrai. J'entendrai quelque chose qui ne vient pas du mental agité. Et ça passe par un renoncement à tout ce que je sais. Ça passe par déposer les croyances, déposer même les outils, vider mes mains et accepter de recevoir quelque chose que je ne connais pas d'avance. Et ça suppose une foi, une confiance absolue. Et l'esprit pur utilise la confiance pour donner son message. L'esprit pur utilise la confiance pour donner son message. Dès que je suis dans la défiance, j'ai déjà nié le message. Dès que je suis dans le doute, j'ai déjà nié le message. Et quand je fais silence, je donne une chance à une voix subtile de donner un message. Mon silence est déjà le signe de ma confiance dans ce message qui viendra sans que je connaisse son contenu. Et à nouveau, Henri Gougaud nous citait la confiance. C'est la certitude que rien n'est sûr, mais que tout ira bien. Je me vide de toutes les pensées et croyances. Et je viens sans aucune certitude. Et dans ce vide-là, assurément, tout ira bien. Même si je ne sais pas pourquoi, je peux avoir l'intuition que dans ce vide, qui est un vide d'agitation, ce vide sera entièrement calme, puisqu'il est vide d'agitation. Entièrement calme et donc entièrement en paix. Et dans la paix est l'amour, puisque l'amour est la paix qui ne s'oppose à rien, qui ne juge rien. Voilà le vide du je ne sais pas, le silence qui est aussi une humilité de parole. J'arrête de prétendre que je sais avec mes mots ou avec mes pensées quelque chose. Dans ce silence-là, la confiance est déjà posée. Et parce que la confiance est posée, cet appel à la vérité est entendu et sa réponse est donnée. Alors ça demande d'être réellement humble, c'est-à-dire que le silence en soit un, sans aucune attente dans ce silence, sans aucune prétention dans ce silence. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu une pensée qui disséquait encore un petit peu plus le fonctionnement de l'ego. Et moi, ça m'aide beaucoup de voir l'ego fonctionner, ça m'aide pour m'en désidentifier. Parce que quand je le vois fonctionner, assurément, je peux dire, ce n'est pas moi, hein, puisque je le vois. Et j'ai trouvé aujourd'hui que lorsque je trouve, par exemple, une nouvelle technique de méditation, une nouvelle approche pour faire le silence, alors ça peut bien sûr m'aider comme un outil, mais en même temps, je donne à mon ego un nouveau jouet pour jouer, et l'ego va l'explorer avec sa curiosité, une curiosité d'enfant. Ah tiens, voilà quelque chose d'autre là. Comment je pourrais contrôler ce nouvel outil? Comment je pourrais me l'approprier pour en faire quelque chose? Et l'ego va explorer cette nouvelle technique, ce nouvel outil, et va trouver toutes les failles possibles pour dire « Ah, maintenant il est à moi, maintenant je le contrôle. » Et en contrôlant l'outil, je contrôle celui qui apparemment l'utilise. Voilà, et j'ai vu ces tentatives de l'ego de reprendre à son compte des moments de connexion avec moi-même, de les interpréter, de les commenter, de les mémoriser, en un mot, de les contrôler, hein. Comme si j'avais fourni à mon enfant intérieur un nouveau jouet pour jouer, et lui va s'amuser à le disséquer sous toutes ses parties pour voir de quoi il est fait et comment il pourrait se l'approprier. Et ça m'a rendu assez joyeux de voir ça, parce que je me suis dit, voilà, reste vigilant à vie, hein, même si tu as trouvé quelque chose. Ce que j'ai trouvé qui m'a aidé, qui m'a beaucoup aidé à avoir plus que 5 secondes de silence vrai intérieur, c'est de sentir l'espace qu'occupe mon corps. C'était une phrase d'Osho, hein. Sentez l'espace qu'occupe votre corps. Mais de le sentir en focalisant complètement mon attention sur mon corps en permanence. Et ben, il s'est révélé à moi que quand je suis totalement centré sur l'espace qu'occupe mon corps, dans cet espace-là, les pensées ne peuvent pas entrer. Du moins pendant un certain temps. Et beaucoup plus long que lorsque simplement j'essaye de garder un silence de pensée. C'est très, peut-être, sensoriel, hein. Et dans le sensoriel, je ne fais pas appel au mental, et peut-être ça vise un petit peu plus à le laisser tranquille. Voilà, et j'ai trouvé que, y compris cet outil-là, l'ego se plaisait à le disséquer, se plaisait à l'analyser, se plaisait à trouver les petites brèches dans lesquelles il pouvait s'insérer pour se l'approprier. Et je me dis... voilà, c'est un système très cohérent avec lui-même, l'ego, hein, puisque tout le monde de l'unité peut essayer d'être réapproprié par l'ego. Toutes les pensées d'amour peuvent être essayées d'être réappropriées par l'ego pour les transformer en un monde de séparation. Et ça demande de la vigilance et le pouvoir d'observer ce qui se passe avec ça, avec les outils que nous avons, et aussi à quel moment nous restons humbles avec les outils et à quel moment nous commençons à exercer du pouvoir avec les outils et nous sortons de l'humilité, hein, de la puissance de l'outil, tout simplement, sans vouloir quelque chose avec l'outil. Et puis j'ai également trouvé encore un très beau passage de l'Évangile selon Jésus qui résonne bien en moi. Et qui parle du système de l'attaque et de la défense, du système de punition qui est installée dans notre société avec les prisons, avec les malfaiteurs, avec la punition. Et Jésus, par l'intermédiaire de Paul Ferrini, c'est à la page 205, un chapitre qui s'appelle « Tout peut s'élever », nous donne un aperçu, une vision aimante d'un monde qui ne l'est pas. Et ça peut être très instructif et très pratique également dans notre monde. Chaque fois que vous attaquez autrui, vous avez quelque chose à défendre. Vous regardez constamment par-dessus votre épaule pour voir qui pourrait bien vous tomber dessus. Ce n'est pas une façon de vivre particulièrement satisfaisante ou digne. Les pensées et les actes que vous inspire la peur attirent ce même genre de pensées et d'actes chez les autres. Ces interactions fondées sur la peur trouvent une forme institutionnelle dans votre système judiciaire, qui repose sur la loi du talion et perpétue le cycle de la maltraitance. En punissant l'auteur du délit, vous espérez le décourager de malmener les autres à l'avenir. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que toute sa rage vient de ce qu'il perçoit, de ce qu'il se perçoit comme une victime. Et c'est ce sentiment que vous renforcez en le punissant. Si vous voulez transformer le malfaiteur, vous devez cesser de le punir et commencer à l'aimer. C'est la seule chose qui marche. Si vous voulez transformer le malfaiteur, vous devez cesser de le punir et commencer à l'aimer. C'est la seule chose qui marche. L'amour ne le récompense pas d'avoir commis une offense. L'amour est ce qui sauve son âme, ce qui le rappelle à lui-même. Cela l'extrait du cycle réactionnel dans lequel il se déshumanise et déshumanise les autres. Face à un amour et à une attention authentique, même le criminel endurci s'adoucit. Vous ne pouvez pas stopper la haine en luttant contre elle avec un esprit de revanche. Tout acte de violence engendre une contre-réaction. C'est étonnant que vous ne le sachiez pas encore. Ce serait tellement facile s'il vous suffisait pour contenir la violence de lui opposer la force. Ce serait là une religion et une vision du monde qui vous seraient faciles à comprendre. Mais si par le plus grand hasard c'était le cas, il n'y aurait aucun espoir d'éveil spirituel sur cette planète. Il est donc impossible qu'il en soit ainsi. Œil pour œil n'est pas un système de justice qui s'intègre au plan conçu pour la guérison de la planète Terre. Seule la non-violence peut libérer de la violence. Seule marche une solution spirituelle. Les solutions que les humains trouvent aux problèmes humains sont invariablement loin du compte. Vous ne pouvez pas résoudre un problème au niveau auquel vous le percevez. Vous devez accéder à un niveau supérieur, voir la situation dans son ensemble, percevoir la cause du problème et vous y atteler. C'est pour cela que vous avez besoin de Dieu dans votre existence, que vous avez besoin d'une pratique spirituelle, d'un appel qui vous fasse sortir du cycle de l'attaque et de la défense. Il n'y a point de paix sans Dieu. Vous ne pouvez pas trouver de paix dans ce monde. Vous ne pouvez la trouver que dans votre cœur lorsqu'il est ouvert. Un cœur ouvert invite l'aimé à y pénétrer. Il invite l'étranger à entrer. Et oui, même le criminel. Un cœur ouvert est un sanctuaire où tous sont les bienvenus. C'est un temple où l'on pratique et célèbre les lois de l'esprit. C'est l'église dans laquelle vous devez vous engager encore et encore pour trouver le salut. Posez-vous la question. Est-ce que je pense, est-ce que j'agis juste en fonction de moi? Ou ai-je le bien d'autrui à cœur? Si vous avez effectivement le bien d'autrui à cœur, vous contribuerez à l'élever et vous vous élèverez avec lui. Dans le cas contraire, vous battrez en retraite sous l'effet de la peur, fermerez votre cœur et chercherez encore davantage à vous protéger. Le choix est simple. Il y a crucifixion lorsque vous fermez votre cœur à votre frère et résurrection lorsque vous lui ouvrez votre cœur, lorsque vous cessez de lui reprocher vos problèmes, de le punir pour ses erreurs, lorsque vous apprenez à l'aimer comme vous vous aimez vous-même. Il n'y a que cela qui vous libérera de la prison de la peur. Que cela. L'amour est l'unique miracle. Tous les autres miracles ne sont que des fioritures. Explorez chacun d'eux en profondeur et vous verrez que vous êtes passé de la peur à l'amour, de l'autoprotection à l'expansion de soi, du jugement des autres à l'acceptation des autres. L'amour déclare « Je t'accepte comme tu es. Je m'engage à considérer ton bien à égalité avec le mien. » Avez-vous idée de la puissance de cette affirmation? Chaque personne à qui vous vous adressez ainsi se voit offrir la liberté de ne plus souffrir. Or, en lui offrant cette liberté, vous vous l'offrez à vous-même. Si vous n'êtes pas en quête d'égalité, vous n'apprendrez jamais à donner l'amour sans condition. Si vous n'offrez pas l'égalité, Vous n'apprendrez jamais à recevoir l'amour sans condition. Cherchez et vous trouverez. Vous recevez selon ce que vous donnez. La loi n'a pas changé. Voilà pour un passage qui résonne éminemment en moi. Il n'y a pas de paix sans Dieu. Qui parle du changement qui ne se fait qu'à l'intérieur, dans le cœur. Qui parle de résurrection dans l'amour et de crucifixion dans le jugement. Ça parle de paradis avec amour et d'enfer dans le jugement également. Et que seule l'attitude intérieure peut faire changer non seulement ma vision du monde, le monde que je vois, mais aussi l'attitude de ceux et celles qui reçoivent ces paroles d'amour, ces paroles d'accueil, ces pensées d'amour, ces actes d'amour. Et à nouveau, combien en faut-il pour sauver le monde ? Un seul. Puisque, depuis un cœur ouvert, ma vision ne voit que l'amour. Elle ne voit que un monde d'amour. Et il n'y a plus aucun jugement dans tout ce que je vois autour de moi. Et le monde ainsi s'est transformé, et le monde ainsi est sauvé des pensées de séparation. La pensée de séparation naît de l'esprit divisé et la pensée d'unité est restaurée dans le cœur ouvert. Et ainsi, je n'ai plus besoin de m'occuper de changer les situations à l'extérieur. J'ai juste à aimer, aimer et aimer encore et encore. Et avoir, comme dit Jésus, une approche globale, une vision globale de la situation qui ne considère pas seulement les actes, mais aussi leur origine. Pourquoi le criminel tue, hein? Pourquoi les actes sont agressifs? Et comment je peux, par la non-violence, guérir la violence? Voilà, de nombreux êtres éclairés sur Terre, comme Gandhi, et bien d'autres ont parlé de cette non-violence. Et le fait de ne pas m'opposer à quoi que ce soit, y compris à la violence, est la garantie que je suis dans un monde où j'émets des pensées de paix, qui se propagent tout autour de moi. Et assurément, ces pensées de paix ont le pouvoir de contaminer les autres, de se diffuser, de créer la paix par vagues autour de moi. Si je suis dans une constance, donc c'est une forme de discipline intérieure que de se dire régulièrement: je veux me rappeler de qui je suis, et donc je prends un temps de retour à moi. Si je suis entraîné dans une agitation mentale intérieure, ou si j'ai tendance à oublier que je suis en train de juger, d'avoir une contrariété, une ride à la surface du lac de ma conscience, et puis à propos de pensées et d'intentions et de leur pouvoir, actuellement, la science et la spiritualité se rejoignent de plus en plus et j'ai été guidé à transférer une conférence de Greg Braden qui dure 4 heures sur mon site Être Plus et qui s'appelle « Le langage de la matrice divine ». En effet, ça dure 4 heures et je peux dire que je l'ai regardé avec intensité du début à la fin, tellement c'est puissant. Et tellement ça parle de choses sans forme, comme les pensées, les intentions, la gratitude et l'appréciation. Et Greg Braden n'est pas le premier des enseignants qui donne, décrit la puissance de la gratitude, la puissance de l'appréciation et le pouvoir qu'ont ces sentiments, ces états intérieurs pour changer nos vies. Et il y a un moment phare dans cette longue conférence qu'il donne devant un millier de personnes en Italie, qui est remarquablement traduite. La traduction est d'une connexion, mais alors, voilà, il n'y a pas une hésitation dans la traduction, et les phrases sont d'une cohérence grammaticale parfaite, comme si c'était le conférencier lui-même qui s'exprimait en français. Alors, je sens que c'est très, très inspiré tout ça, pour ça que je suis guidé à en parler. Et donc, il y a un moment phare à peu près une heure, 21 minutes du début, où une personne atteinte d'un cancer de la vessie qui est jugé inopérable par les médecins occidentaux va en Chine et va rencontrer des médecins qui pratiquent la médecine par l'intention, sans toucher la personne, comme une médecine quantique, peut-on dire. Et ces trois médecins qui sont entraînés à émettre des intentions, qui sont vraiment dans ça, dans leur vie quotidienne, et qui sont très sensibilisés au pouvoir de ces intentions. Et il y a une échographie de cette tumeur qui est présentée comme image témoin. C'est une tumeur de 8 cm de diamètre dans la vessie. Et à droite, on a une image en temps réel. Et sans aucun contact avec la patiente et sans aucune anesthésie, les patients disent en chinois et répètent sans cesse « c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait ». Et avec force et avec puissance. Et c'est un mot en chinois qui est « djung », qui est percutant. Et à un moment, ils rentrent un peu en transe et ils disent « maintenant, maintenant, maintenant ». Voilà, tout ça pour vous parler de l'ahurissant pouvoir de l'intention. En 2 minutes et 40 secondes, nous voyons sur l'écran de contrôle la tumeur fondre complètement et disparaître. Voilà, bien sûr, l'ego va pouvoir émettre tous les doutes possibles et tourner ça en incroyable ou en ridicule. Peu importe. C'est son domaine et il excelle là-dedans. Mais cependant, si vous avez cette intuition que l'intention est puissante et que se réjouir du résultat comme s'il était déjà produit fait appel à des forces invisibles qui nous entourent et concrétise une réalisation parmi un tas de potentiels différents, dont celui de la santé, alors ces mots et cette expérience peuvent prendre du sens pour vous. Voilà, c'est ce qui fait la puissance de cette conférence, puisque toutes les 4 heures sont basées sur le langage de la divine matrice, qui reprend ce que Tesla avait déjà émis il y a longtemps, à savoir que le vide n'est pas vide et que tout est vibrant d'énergie autour de nous, et c'est en cela que la science et la spiritualité se rejoignent, et c'est l'émergence de ce que Greg Braden appelle lui-même la nouvelle science. On dit aussi la nouvelle médecine, qui fait appel à l'invisible, et qui fait appel à la pensée, qui fait appel à l'intuition, qui fait appel au tout un champ de potentiel quantique parmi tout un éventail de potentialités qui existent tous déjà. Avec mon intention, je fais atterrir, et peut-être c'est le cas de le dire, une intention, un résultat, un potentiel parmi beaucoup d'autres en fonction de ce à quoi je crois. Et là, à nouveau, nous pouvons dire que ce n'est pas ce que je vois que je crois, mais ce que je crois que je suis amené à voir. Parce que j'y crois assez fort, alors ça se manifeste. Et quand nous mettons en commun nos intentions, comme ces trois médecins, alors ça peut prendre des allures de miracle. Et quand 60 personnes se réunissent avec un guérisseur et mettent leurs intentions de guérir, de mettre toutes leurs intentions sur la guérison qui est de l'esprit, l'intention aussi est de l'esprit, cette ouverture, cette foi, cette confiance est le terreau dans lequel la guérison opère. Opère comme un médecin opère. Voilà, je dis ça parce que apparemment en février, il y aura un cercle de guérison ici dans mon lieu avec 60 personnes et un guérisseur mexicain qui voyage dans le monde, qui apparemment génère des miracles et est entouré de phénomènes de guérison divers. Donc, que je me vois dans la perfection, hein, même si mon corps apparemment souffre d'une maladie, que je me vois comme dans l'amour absolu, que je me vois comme invulnérable, que je me vois comme riche et que je vois mon frère, ma sœur en face de moi comme riche et bien portant. Cela s'est produit, hein, cela s'est déjà produit. C'est un des potentiels dans notre vie humaine où tout est possible et il y a un des possibles qui va refléter ma croyance la plus prononcée, la plus forte. Voilà, je crois utile de dire que un mois avant de venir dans ce lieu à Romainville, je n'avais aucun lieu prévu. J'avais déjà vendu ma maison précédente et j'ai mis une intention puissante avec une description précise du lieu dans lequel j'allais atterrir. Et tous les jours, je me réjouissais de le visualiser comme déjà étant produit, comme existant déjà. Et manifestement, il n'y avait pas de lieu correspondant dans toutes les annonces que je visitais. Tout était très terne par rapport à mon souhait. Et lorsque j'ai vu la photo de ce lieu, c'était incomparable. Une résonance énorme. C'était quatre photos qui résumaient le paradis pour moi, avec des plantes tropicales, avec de la beauté. Et je suis allé voir l'agence et on m'a dit, c'est pas possible, c'est même pas la peine, on peut pas monter de dossier si vous n'avez pas de fiche de paye ou si vous êtes en déficit, ce que j'étais à l'époque. Et quand je suis rentré chez moi, je me dis, là vraiment je ne comprends pas. C'était tellement évident que c'était là où j'avais à être. Bon, je me suis dit, alors, c'est que l'univers a quelque chose d'encore mieux pour moi. Deux semaines plus tard, je me dis, non, c'est pas possible que ce soit comme ça. Je rappelle, et puis j'y mets toute ma conviction. Et j'y mets toute ma détermination. Et je dis, je vous donne autant de mois de loyer d'avance que vous souhaitez si vous avez besoin d'assurance. Ou je vous donne des attestations du banquier et du notaire. Et là, l'impossible s'est produit. Comme dit l'ego. Et là, ils m'ont dit, on le fait pas d'habitude. Mais pourquoi ont-ils dit ça? Je l'ignore. Mais on va le faire pour vous. Et on va monter un dossier, on va voir ce que ça donne. Pourquoi l'ont-ils fait? Encore une fois, je l'ignore. mais ils m'ont dit qu'après que la détermination dans laquelle j'étais a beaucoup, les a beaucoup influencés. Et donc j'ai, ils m'ont montré le lieu, j'ai rencontré le propriétaire. Il y a eu une telle confiance qui s'est installée d'emblée. J'ai été tellement accueilli et tellement persuadé que c'était mon lieu que et les quelques phrases que j'ai dites au propriétaire ont fait que il a laissé tomber tout le système de la gestion des loyers qui devait lui donner l'assurance que je payerais. Donc il a laissé tomber son assurance, hein, et donc sa peur. L'assurance est le symbole de la peur. Et il a décidé de traiter avec moi directement. Et ce qui fait que je suis entré dans ce lieu. Pour moi, c'est un véritable miracle. Que la peur cède place à la confiance, c'est ça le miracle. Hein, c'est ce que disait Jésus. Lorsque vous creusez suffisamment le miracle, vous arrivez sur l'amour qui a transformé la situation. La confiance, assurément, est issue de l'amour. Je ne peux pas avoir confiance sans être moi-même dans une détente absolue, dans la certitude que tout ira bien, dans un état sans peur. Et sans peur, ça veut dire dans l'amour, puisqu'il n'y a que l'amour ou la peur. Donc, mon intention pendant un mois posé chaque jour a littéralement créé ma réalité. Je peux le dire avec assurance aujourd'hui. A créé l'arité dans laquelle je suis, je vis maintenant, a renversé une situation qui apparemment n'avait pas de solution. Et qui l'a fait ? C'est pas moi, ça c'est sûr. Hein. Ça s'est déroulé, le tapis rouge s'est déroulé. Pourquoi ? Parce que je l'ai souhaité assez fort, et je l'ai désiré du plus profond de mon être, et que je l'ai reconnu aussi comme étant, comme si c'était déjà fait. Hein, c'est là que je vis. Il n'y en avait pas d'autre pour moi, c'était clair, très clair. Et à la question de qui paye le loyer et comment, là aussi, l'attitude intérieure que j'ai eue, c'est pas à moi de m'en occuper. Hein, moi, je sais que je suis là, j'ai reconnu ce lieu, il me rend joyeux, il me permet de faire ce que je sens que j'ai à faire, et si c'est juste, l'argent viendra. Et là aussi, c'est l'attitude intérieure, c'est déjà fait, le loyer est payé. Hein. Si j'entretiens la peur à propos du prochain mois, c'est aussi une intention puissante qui dit j'aurai pas assez d'argent. Hein. Et donc cette intuition aussi, cette intention aussi est créatrice du manque, est créatrice de je ne suis pas je n'ai pas ce pouvoir divin de cette abondance qui se déroule au fur et à mesure que je marche. Et je n'ai pas besoin d'anticiper le prochain pas, ni le prochain mois, pour que ça fonctionne. Hein. Voilà. Donc c'est très concret tout ça. Néanmoins, le carburant pour moi, c'était la joie de réaliser ma mission de vie, d'âme, dans un lieu qui s'y prête. Hein, cette joie-là est associée à une gratitude, est associée à une appréciation de comment je vais être dans des conditions optimales pour le faire. Et Tom Kenyon nous donne des enseignements d'être spirituel, de guide spirituel qui s'appelle les Hathors, et qui basent beaucoup de leurs messages sur l'importance d'avoir des moments de gratitude et d'appréciation dans notre vie, et que cela, pour l'humanité, est un facteur d'élévation sans pareil, même si c'est invisible. Et souvent, nous oublions de remercier. Chaque merci que je donne, que j'écris, que je dis, que je pense, élève mes vibrations et élève celles de l'humanité en entier. Parce que dans ce merci, je reconnais ma nature divine. Je reconnais l'infinie abondance. Je reconnais que c'est déjà fait, comme disaient les médecins. C'est déjà fait dans ma nature divine. Je suis déjà ce que je sais être, ce que j'ai l'intuition d'être, même si je rêve d'autre chose. Donc, voilà, prenons le temps de dire merci. Prenons le temps de ressentir la gratitude pour ce plan divin parfait qui me donne les situations parfaites où je vais pouvoir choisir l'amour et re-choisir l'amour et re-re-choisir l'amour. Et avec ça, élever, m'élever et encore m'élever. Et chaque situation arrive au moment où j'ai les ressources internes pour la gérer, seulement à ce moment-là, au moment où je peux choisir l'amour, et que je vois que ce plan divin est là pour me dire « avance sur le tapis rouge, avance » et il va se dérouler au fur et à mesure, et remercie, remercie pour ces témoins de la divine matrice, comme dit Greg Braden, qui frétille autour de toi, qui sont dans chaque atome, chaque molécule, chaque partie de l'espace que nous croyons vide, est infiniment vibrant et infiniment porteur de tous nos sentiments d'amour, de tous nos sentiments de gratitude et d'appréciation. Tout cela est de nature à étendre l'amour sur Terre et à englober et à guérir toute l'humanité dans son ensemble, puisque, encore une fois, pour sauver le monde, un seul, il en suffit d'un seul. Et qui sait ce un seul? C'est moi. C'est à partir de mon cœur et uniquement à partir de cela, de ça, que je crée cette réalité d'amour qui guérit tout, qui transcende tout et qui nous enveloppe en totalité. J'ai parlé.
Merci Avi, j'ai beaucoup aimé ton témoignage sur la maison, la façon dont elle est arrivée. Je voudrais remarquer, presque souligner en rouge, un détail de ce que tu viens de partager. C'est l'absence de lutte, l'absence d'aller contre. Donc il y a un paradoxe ici très important, qui souvent fait couler beaucoup d'encre ou suscite beaucoup de questions dans les groupes, dans les situations personnelles les uns les autres, c'est avoir une intention ferme, forte, et en même temps ne pas lutter, lâcher prise. Et dans ce que tu nous as raconté, il y a un détail qui me saute aux yeux, là, c'est le fait que tu as vu cette maison, elle t'a parlé fortement, elle a parlé à ton cœur, et puis, on t'a dit, c'est pas possible. Et là, tu n'as pas lutté. Tu as accueilli dans l'amour, bon, c'est pas possible, c'est mis, pourtant. Et c'est 15 jours après, pas 5 minutes, pas 2 heures, 15 jours dans lesquels tu as vécu, évidemment, tu as fait des tas de choses. Et puis, peu à peu, il y a quelque chose qui est revenu. Et puis, tu es reparti proposer, faire une proposition qui a été acceptée, bon. Mais c'est cette notion de non-lutte. Et donc, il y a souvent quelque chose qui n'est pas clair chez les uns, chez les autres, chez nous, en disant, mais on a l'impression, on peut avoir l'impression qu'il faut se battre, qu'il faut que quand on se bat, eh bien on a les résultats. Non, non, on ne se bat jamais. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas une intention forte. Et la question, c'est, dans l'instant présent, car on vit que le présent, c'est, avant tout, j'accueille le présent, et je suis mon intuition, ma guidance, je suis mon cœur. Là, mon cœur, c'était « cette maison me parle ». Non, monsieur, ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et dans l'instant, c'est « ah, effectivement, là, je n'ai pas de solution ». Très bien. Et là, je reste « ok, merci ». Et puis, au bout de 15 jours, mais c'est long, 15 jours, peu à peu, ça revient, Et puis, il y a tout d'un coup l'intuition d'essayer autre chose. Il n'y a pas de lutte. Il n'y a pas eu lutte. Il y a eu accueil. Parce que l'amour, c'est l'accueil. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Encore une fois, nous sommes tous confrontés à ce genre de situation. On nous dit rêver grand, visualiser, ne mettez plus de limites. On va créer ensemble des nouvelles structures, de nouvelles choses, de nouveaux lieux, etc. On va avoir des nouvelles relations. Très bien. Mais on ne se bat pas. L'amour ne se bat jamais. L'amour n'est que paix. Donc on accueille l'instant présent. Et quand il y a quelque chose qui se met en travers de la route, comme ça, sur un plan qui paraît, ou un projet qui paraît séduisant au cœur, qui appelle le cœur, eh bien, il y a, ok, c'est comme ça aujourd'hui. Très bien. Je vais écouter. Donc, je suis au service. Et on est au service de quoi ? On est au service du plan divin. Et cette notion de service devient fondamentale. Donc, par exemple, dans l'exemple d'Avi, j'ai cette intention d'avoir un lieu et qui va être au service, où il va y avoir des groupes, et il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Et puis là, j'ai l'impression d'avoir trouvé ce lieu, et puis ça ne va pas. Eh bien, même si mon cœur m'appelle à ce service, je ne me bats pas. J'insiste un peu, mais parce que c'est quelque chose qui revient sans cesse. Quelque chose qui paraît simple, et effectivement, c'est simple, c'est très très simple. L'amour est accueil. L'amour n'est jamais lutte. On peut dire qu'il n'y a pas d'effort. Alors on va dire, oui, mais on est invité à sans cesse être recentré, mais sans effort, puisqu'on est dans l'instant présent. Donc peu à peu, c'est un appel à se recentrer sur le service, sur l'accueil, sur l'amour, sur la perfection du moment présent, même si apparemment j'ai un blocage quelque part par rapport à un projet, par exemple dans celui de ce que Aviv a partagé. Je ne me bats pas. J'accueille. Ils écoutent ma guidance. Et la guidance, elle prend soin de chaque instant. Et notons bien que c'est seulement 2 semaines après, c'est long 2 semaines, que Avi a été inspiré à revenir et à essayer de faire une autre proposition. Voilà. Donc, merci pour ce partage, Avi, et puis ce qui nous permet d'éclaircir un peu cette question qui nous concerne tous beaucoup plus qu'on pourrait peut-être le penser.
Voilà, je voudrais terminer ce groupe et clôturer l'enregistrement sur cette leçon à nouveau du cours en miracle. Que toute voix, sauf celle de Dieu, fasse silence en moi. Et j'espère que ce silence que nous venons de vivre ensemble, y compris toi, cher frère, chère sœur, qui est devant tes haut-parleurs, a été propice à entendre à l'intérieur la voix de Dieu. Et j'aime bien le mot propice parce que ça peut être lu en anglais, propice, pour la paix. Voilà, dans la joie d'un prochain partage, je termine cet enregistrement et te dis à tout bientôt pour un prochain partage.